7h en temps universel, vous écoutez RFI.
RFI Matin.
Le journal international avec vous, Julien Coquelroy.
Et à la une, Clotilde, une explosion comparable à un petit séisme hier soir dans le sud du Liban, la destruction de tunnels sous une ancienne position stratégique du Hezbollah par l'armée israélienne. On appelle notre correspondant à Beyrouth dans un instant. À la une également, une nouvelle nuit de frappes russes sur Kiev et l'intensification des bombardements qui bouleversent le quotidien. Reportage à suivre dans une école où les cours se déroulent désormais bien souvent sous terre. Dans ce journal également, la rupture des relations diplomatiques actée hier par l'Algérie avec les Émirats Arabes Unis. Et puis à Paris, le retour tant attendu de Céline Dion demain soir. Après 6 ans d'absence, les fans du monde entier affluent vers la capitale française et notre dossier vous raconte son parcours extraordinaire.
Mission accomplie, écrit Benjamin Netanyahou sur ses réseaux.
Après le dynamitage hier soir par l'armée israélienne des infrastructures souterraines enfouies sous les collines de Alitaer, site stratégique repris par Israël au Hezbollah il y a quelques jours, plus de 1000 kilos d'explosifs ont été utilisés dans l'opération et l'explosion a provoqué une secousse équivalente à un petit séisme de magnitude 4,1 selon l'agence américaine de sismologie. Son onde de choc a été ressentie dans tout le sud du Liban. Bonjour Paul Ralifé.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
En direct de Beyrouth, au-delà de l'ampleur de l'opération, peut-on parler de la destruction de ces tunnels comme d'un coup dur pour le Hezbollah? Quelle était l'importance pour lui de cette crête d'Alitaer?
Eh bien, Alitaer abritait le quartier général de l'une des 3 unités territoriales du Hezbollah chargées de la défense du Sud-Liban. Badr, qui est le nom de cette unité, avait la responsabilité du secteur central qui comprend le district de Nabatieh et la ville éponyme au nord du fleuve Litani. L'emplacement stratégique de la colline à plus de 600 mètres d'altitude permettait de dominer la vallée du Litani et une grande partie du Sud-Liban. Israël affirme avoir détruit plus de 2 km de tunnels sur les 8 kilomètres creusés au cœur de la colline. Ces infrastructures comprenaient des dépôts d'armes et de munitions, un complexe de commandement central, des quartiers d'habitation et d'importantes réserves de vivres.
L'armée israélienne continue donc ses frappes et ses opérations dans le sud du Liban malgré le cessez-le-feu, alors que les négociations entre les deux pays doivent reprendre dans 4 jours. Cette destruction risque-t-elle de compromettre les discussions, Paul ?
Julien, il est peu probable que le Liban décide de ne pas participer au prochain round de pourparlers à Rome. Même s'il ne l'affirme pas ouvertement, les dirigeants libanais ne sont pas mécontents qu'Israël accomplisse la tâche qu'ils s'étaient eux-mêmes assignée, c'est-à-dire le désarmement du Hezbollah et le démantèlement de ses infrastructures. Il faut aussi établir un lien entre la destruction de Ali Taher et le redéploiement de l'armée libanaise et des services de sécurité dans la ville voisine de Nabatieh cette semaine. La question du désarmement total du Hezbollah dans le district de Nabatieh et le retour de cette région dans le giron de l'État sera probablement au centre du prochain cycle de négociations.
Paul Khalife à Beyrouth pour RFI, merci beaucoup. Dans la région du côté de l'Iran, la nuit semble avoir été calme. Autour du détroit d'Ormuz, les ministres des Affaires étrangères de l'Iran et de la Corée du Sud ont par ailleurs évoqué le sujet quelques jours après que Séoul a confirmé envisager sa contribution pour sécuriser la navigation dans le passage et que Téhéran a menacé le pays de conséquences graves.
Plus de 700 drones ukrainiens abattus et 2 morts cette nuit en Russie.
Alors que du côté de Kiev, une frappe russe a provoqué un incendie dans un immeuble résidentiel et blessé au moins 8 personnes. Hier, c'est l'attaque d'un centre commercial du pays qui a tué au moins 5 personnes et fait 67 blessés. L'intensification des frappes russes qui complique de plus en plus le quotidien des Ukrainiens et notamment celui des plus jeunes. Comment maintenir un semblant de normalité à l'école alors que les alertes se multiplient et durent parfois presque toute la journée? Les établissements tentent de s'adapter à l'image de cette école de l'Est de Kiev où les cours se déroulent désormais en grande partie sous terre. Reportage Lucas Lazo.
Dans les sous-sols de l'école Winston Churchill, il a fallu pousser les murs pour faire rentrer les pupitres des élèves de primaire. Les classes ne sont séparées les unes des autres que par un drap tendu par un fil.
Bien sûr, faire des cours dans ces conditions, c'est une véritable torture pour les enfants. Une véritable torture.
10 jours à peine après la rentrée, Yulia, l'institutrice, est épuisée.
Si vous regardez la carte des alertes aujourd'hui, vous verrez que nous n'avons pas la possibilité de faire cours dans les salles de classe. Ce n'est possible que lorsqu'il n'y a pas d'alerte, ce qui est devenu improbable aujourd'hui.
Avec cette menace constante, le quotidien s'organise sous terre à la lueur blafarde des néons.
On est même arrivé à faire de l'éducation physique et à chanter doucement. On peut aussi sortir dans un petit couloir et prendre un peu de repos à l'écart du bruit général.
Dans l'abri, l'air est étouffant. Dès que l'alerte prend fin, les enfants remontent, profiter d'un rayon de soleil sous l'œil inquiet de leur enseignante.
Ils sont extrêmement fatigués. Ils ont mal à la tête. Tout cela affecte évidemment leur état psychologique. Ils deviennent très agités.
Faute de place dans les abris, les élèves les plus âgés alternent entre cours en présentiel et enseignement à distance. Lucas Lazo, Kiev, RFI.
Et face à la multiplication des frappes russes, la visite de Volodymyr Zelensky hier au Canada et la promesse du Premier ministre Mark Carney de débloquer 218 millions d'euros pour fournir des moyens de défense aérienne à Kiev. Un accord sur la production de drones a également été conclu. Volodymyr Zelensky qui annonce aussi une rencontre avec Donald Trump fin septembre à New York. Du côté de Moscou, le porte-parole du Kremlin a affirmé hier que la Russie envisage un nouveau cycle de négociations avec Kiev et Washington aux Émirats Arabes Unis.
Les Émirats Arabes Unis avec qui l'Algérie a acté le divorce hier.
Alger a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec Abu Dhabi et demandé à l'ambassadeur des Émirats de quitter son territoire dans les 48 heures, évoquant des agissements provocateurs sans plus de précision. Le gouvernement algérien indique avoir pris cette décision après avoir épuisé toutes les voies permettant de préserver les relations bilatérales. Elles se dégradent depuis plusieurs années, alors que l'Algérie accuse le pays d'ingérence dans les affaires de plusieurs États de la région. C'est ce que nous explique Adlène Mohamedi, chercheur au CERI Sciences Po.
L'escalade est de plus en plus perceptible. Et là, il semblerait que la diplomatie algérienne ait décidé de franchir le pas. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? On sait déjà, par exemple, que les Émirats ont soutenu, par exemple, en Libye, un acteur qui se présentait comme assez clairement hostile à Alger, à savoir Khalifa Haftar. On sait aussi que les Émirats Arabes Unis veulent jouer un rôle de plus important au Sahel et parfois au détriment des intérêts algériens. Globalement, quand on parle d'agissement hostile à Alger, on pense notamment à des campagnes, par exemple, considérées comme anti-algériennes menées par les Émirats auprès des pays, en fait, du Sahel, à savoir principalement le Mali et le Niger.
Propos recueillis par Alexandra Brangeon et l'Algérie qui ferme aussi son espace aérien aux avions militaires et civils émiriens. Abu Dhabi dit espérer que la rupture ne sera que temporaire.
C'était il y a 25 ans, jour pour jour, le traumatisme et la bascule des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis.
La mort de 2977 personnes dans les attaques d'Al-Qaïda, le choc mondial devant les images des tours jumelles du World Trade Center percutées par des avions avant de s'effondrer. Un anniversaire marqué comme chaque année par des cérémonies d'hommage à New York auxquelles Donald Trump ne participera pas. On évoque les 25 ans du 11 septembre toute la journée et sur notre site RFI.fr.
Une mesure sociale annoncée, Julien, au Japon, le salaire minimum augmenté de 5% pour la deuxième année consécutive.
Pas de quoi faire rattraper au pays son retard en la matière alors que le SMIC horaire est désormais de 1177 yens, 6,50 euros environ contre plus de 12 euros par exemple en France et au Royaume-Uni. Près de 40% des salariés japonais n'ont qu'un emploi précaire et nombre d'entre eux sont donc au SMIC. Alors comment joindre les deux bouts avec un tel salaire ? À Tokyo, Bruno Duval.
Deux repas par jour, c'est le lot de Keiko, un prénom d'emprunt à sa demande. Elle gagne si peu qu'elle doit faire une croix sur le déjeuner.
50 yens en plus, c'est mieux que rien, mais malgré cette hausse, je ne m'en sortirai toujours pas financièrement. Mon salaire de misère ne me permet pas de payer un loyer, donc je vis toujours chez ma mère alors que j'ai près de 40 ans. Mais maman aussi n'a qu'un emploi précaire, donc elle est au SMIC. Ce qui veut dire que quand elle sera à la retraite, elle ne touchera qu'une pension d'un montant dérisoire. Et c'est là que toutes les deux, on sera encore plus dans le pétrin.
Ce restaurateur emploie plusieurs jeunes qu'il rémunère au salaire minimum. Il accuse le coût.
Je me réjouis que mon personnel gagne un peu mieux sa vie, car ça ne doit pas être facile de boucler ses fins de mois avec un SMIC aussi peu élevé. Après, 10% de hausse salariale en deux ans, c'est compliqué à gérer pour moi en termes de trésorerie. D'autant que mes recettes ne sont pas mirobolantes, puisqu'en raison de l'inflation qui est au sommet, beaucoup de Japonais se serrent la ceinture, donc sortent moins qu'avant. Bref, les temps sont durs pour tout le monde.
Pour autant, la première ministre Sanae Takaichi, qui est ultra-libérale sur le plan économique, vient d'annoncer que le SMIC horaire n'atteindra 1500 yens, 8 euros, que dans les années 2030, et non avant la fin des années 2020, comme avait promis son prédécesseur Shigeru Ishiba, lui, un conservateur modéré. Bruno Duval, Tokyo, RFI.
RFI, il est 9h10 à Paris, la capitale française.
Things you left undone. help me believe the good you say you see in me. I know I could be what you need.
A une importance capitale. Une chanson plaît surtout en fonction de sa musique.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4 dans le sud de l'Eure 95.9.
Par le truchement de la musique, on apporte dans l'oreille des gens ce qui habituellement ne devrait pas y être admis, n'est-ce pas? C'est un truc, c'est ce qu'on appelle de l'art.
Principe Actif, le mix des cultures.
La jolie, akavali la jolie, anembo akateteno la jolie, akawalo pepe la jolie, anejike no no, alula walo, chepaka nama aneboa, chepale jevubeo, mechalabe, chepadre watia jolie, anama jolie,
La story du type commence mal. Patate de daron. Bim, chaos dans une bagarre de bar. Réveil dans le salon d'un appart classe. Sur le carrelage, un canon et un cadavre. Le bad. Trip, le gars flip normal. Il ne trouve plus son portable. Ça va vite dans sa tête. Il se voit menotte au poignet. J'ai perpétuité, il se sent piégé. Il s'apprête à tailler quand
dans tout ce bazar, les pleurs d'un gosse retentissent. Ça vient de cette porte au fond du couloir numéro des triple 6. Une main sur la cloche, l'autre prête à clasher. De toute façon, y'a rien à perdre, personne voudra le relâcher. Et puis d'un coup, ding, demi-tour ready. Ça sonne dans la cuisine avec odeur de rôti trop cuit. Un type gît la tête dans le four, ça paie comme une starlette. Poignée gauche menottée à une mallette, donc.
Ça sent le roussi, sombre scénario d'un film gore thriller policier, digne de Tarantino. Sauf que ce coup-ci, les corps gisent, les balles sont bien réelles. Lui encore en sursis, si on le trouve là, c'est la merde.
Et merde.
Il vomit, se demande qui a commis ces crimes. Mais aussi, qui sont les victimes. Et pourquoi lui, pourquoi ici. Et surtout, pourquoi sur la table une seringue et une scie.
Plus le temps de cogiter, maintenant il faut agir vite. Le môme est en danger, il faut le sortir tout de suite. Il fonce vers la porte,
c'est fermé.
Putain la poisse, après tout qu'il se démerde. Je le connais pas, voilà ce qu'il pense. Mais ça lui revient comme un flash, la clé dans la tâche équelle.
Chope la scie,
coupe le bras du lascar qui n'était que braise. Dans la mallette, une clé, une enveloppe à son nom. Il ouvre la porte, la voix du môme, un enregistrement.
Il se dit, quelqu'un se joue de moi. C'est une caméra cachée ou quoi, on se fout de ma gueule. Je me casse. Ou bien je fais l'acteur, il se tâte, puis décide de lire le message.
Yes.
Vous avez réussi la première épreuve, prochaine étape, plantez-vous la seringue dans le cœur, injectez-vous le produit, c'est le seul moyen de sortie. PS, méfiez-vous des zombies.
Ils m'ont pris pour un ouf dans un délire morbide. Impossible que j'obéisse, quitte à crever ici. Je saisis la seringue remplie du liquide jaunâtre. La vie d'un même le sol. Je suis pas le dernier des connards. J'envoie la table, valser dans la pièce en marchant sur le tapis. Plus rien sous mes semelles, commence une chute. Elle paraît éternelle, absorbée dans un tunnel sombre et étroit. Je me nique à gauche, à droite.
Je me réveille dans une pièce sombre et vide lorsqu'une voix retentit. Vous auriez dû vous injecter l'antidote, vous êtes fini. Préparez-vous, une porte va s'ouvrir, arriveront des zombies. L'un d'eux possède un plan précis et les clés vers la sortie. J'arrête pas de me demander ce que je fais dans ce trou. Dans ma tête tout est flou, j'en deviens presque fou. Mais ils arrivent, la seule arme que j'ai c'est la scie. Que dois-je faire? Me battre pour sortir d'ici?
La porte s'entrouvre, je les entends gémir. Et là quelque chose d'évangélique. En un instant Jenny repère une vanne et l'ouvre. J'y libère un dégât des autres qui emporte les occupants de la pièce. Je décale les sauts. Slalom entre les corps, récupère les clés. Le plan c'est les pieds devant, je dois me défaire de ce décor. J'ai l'un des seins qui m'indique une trappe au plafond. Un aller simple. Au bout d'une pique, un drapeau plaque.
Yes, yes, il le passe en espérant que ça y est. Fini, grosse farce ou expérience alien. Fini, le cauchemar, il était temps que ça s'arrête. Le délire est pas net, c'est fini, il s'évade. Dernier couloir, devine la blague. Il tombe sur un cul-de-sac et le type du bar. La story finie, al, bim, chaos.
Yeah.
Réveil dans un lit d'hôpital.
Oula, non, 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 vous levez pas tout de suite, hein, faut y aller doucement. Ça fait 3 jours que vous êtes à l'hôpital, vous avez pris un mauvais coup, il faut rester tranquille.
Peut-être que 1 plus 1 égale 11, et ça c'est...
Mars.
Non.
Red planet.
Non.
Mars.
Non.
The stars with your 60-62, jumping in your car with your gun with your needed 73, running in your flying suit in your GF-44, walking on Mars with your tank with your DD-51. Thank on Mars, Mars mission 51. Thank on Mars, Mars mission 51. Thank on Mars, Mars mission 51.
Mars.
60, 62. Jumping in your car with your gun. We did it number 3. Running in your flying suit. In your GF-44. Walking on Mars with your tank. With your DD-51. With your DD-51. With your DD-51.
Running in your flying suit.
With your DD-51.
Walking on Mars with your tank.
With your DD-51.
Vous écoutez Principe Actif
à Louviers
sur le
DAB+.
Sur le DAB+.